Bon matin tout le monde. Merci pour merci à l'équipe de louange puis à la technique aussi. C'est bon de pouvoir se recueillir comme ça puis de rentrer en soi-même si je peux dire puis de laisser la louange, les paroles qu'on chante nous imprégner. Moi ça rend l'évangile vivant dans ma vie, n'est-ce pas? Vous savez, quand je suis comme ça, là, je me dis, j'aimerais tant qu'un tel ou un tel que je connais soit là, puis puisse entendre les chants, puis profiter de ça. Ça me donne le goût d'annoncer l'Évangile. Hein? Ça me donne le goût de partager ma foi. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de partager l'Évangile, mais de finalement rester muet parce que vous ne saviez pas par où commencer, puis comment le faire. Hein? Moi, des fois, je prie, là, puis je dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un à qui témoigner. Puis là, quand je dis ça, moi, je suis plein de je suis boosté à bloc. Plein de zèle, plein de bonnes intentions, puis je me dis, hey, ils ne créeront pas ça, la prochaine personne prête, là. Ça, mais la prière, vous savez, c'est dangereux. C'est dangereux parce que Dieu peut y répondre. Et là, quand j'ai prié pour que le Seigneur m'envoie quelqu'un qui témoignait, puis que Dieu répond, bien, je sais pas pour vous autres, mais ça m'arrive souvent dans un temps où je m'y attends pas. Je suis pas prêt. Je suis pas préparé à ça. Alors là, un peu pris au dépourvu, bien là, je commence à stresser. Mon estomac se noue. Je commence à transpirer. Je suis presque sur le bord de bégayer. On dirait que je deviens fiévreux. Mes genoux claquent ensemble. Puis là, au bord de la crise d'angoisse, je dis, excuse-moi, mais il faut que je m'en aille. Ben non. Ça se passe pas comme ça, j'exagère, je caricature. Mais pour beaucoup de chrétiens, ça peut se passer comme ça. Peut-être pas aussi intense, là. Mais dans ce sens que, quand ça arrive, l'occasion de témoigner, on ne sait pas comment s'y prendre, alors on cherche le goût de se défiler. Hein? Mais souvent, quand ça arrive, comme on ne sait pas quoi faire, ben on se donne des excuses pour se justifier un peu. Ah, ben là, dans le fond, c'est pas facile pour moi de témoigner parce que moi, je ne suis pas un évangéliste. Moi, je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un pasteur. Moi, là, je ne suis pas bon pour argumenter. Hein, on s'excuse comme ça. Mais ça peut être vrai, vous savez tout ça. Mais en réalité, ça n'a pas d'importance parce que faut saisir que l'Évangile, c'est pas nécessairement un message à défendre ou à argumenter, mais c'est un message à proclamer. Jésus ne nous appelle pas à être ses défenseurs, mais ses témoins. D'ailleurs, il a dit en Actes 1:8, vous serez mes témoins, pas mes défenseurs, mes apologètes, pas, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce qui rend parfois le fait de pouvoir témoigner difficile, bien, c'est qu'on cherche à rendre compliqué ce qui, en réalité, devrait être simple. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9. Ce matin, on continue notre série dans l'Évangile de Jean. Je n'ai pas le moniteur ici, je ne sais pas si vous pouvez le mettre en fonction. On continue notre série dans l'Évangile de Jean, où on regarde depuis plusieurs semaines la rencontre que plusieurs personnes ont eue avec le Seigneur Jésus et comment cette rencontre-là a changé leur vie. Aujourd'hui, on va voir quelqu'un qui n'était ni un évangéliste, ni un théologien, ni un apôtre du Seigneur. Et cet homme venait à peine de rencontrer Jésus, alors il n'avait pas derrière lui de longues années de vie chrétienne et il n'y avait pas non plus suivi de cours d'évangélisation explosive ou des choses comme ça. Et pourtant, Satan m'a donné l'un des témoignages qui, à mon avis, est le plus simple, mais les plus percutants de toute l'Écriture. Voyons comment ça s'est passé. L'Évangile de Jean, au chapitre 9, on ne lira pas tout, là, je vais sauter quelques versets. Verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 6. Jésus cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Wow! J'étais aveugle et maintenant je vois. Quel témoignage simple, mais percutant. Pas de stratégie de communication, pas de technique d'évangélisation, pas d'argumentation théologique. Simplement, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et ça a été percutant parce que les gens se sont mis en colère. Il y a deux idées que j'aimerais faire sortir du texte de ce matin. La première, c'est comment l'Évangile en lui-même ressort de ce texte. Et deuxièmement, comment on peut nous aussi témoigner de Jésus-Christ d'une façon simple, mais percutante. Cet homme, comme on l'a lu, était né aveugle. Alors, il devait mendier pour vivre. Hein? Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque. Il n'y avait pas tous les services communautaires qu'on peut avoir aujourd'hui au Québec et tout ça. Donc, il devait mendier pour vivre. Et vous savez, spirituellement, on peut faire un parallèle de ça parce que c'est un peu la même chose pour nous. La parole de Dieu affirme que nous naissons tous aveugles spirituellement. Notre nature pécheresse, celle avec laquelle on est, fait que nous sommes à la base séparés de Dieu. Donc, incapables de voir la vérité spirituelle par nous-mêmes. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Parce que si Dieu n'intervient pas, on ne pourra pas voir la vérité. On va demeurer aveugle. La nouvelle naissance qui nous donne la vue spirituelle, c'est un miracle de Dieu, ça. Mais on est tous dans cet état-là. Et depuis que nos premiers parents ont péché, en Genèse 3, la nature pécheresse a été transmise d'une génération à l'autre, à toute l'humanité, jusqu'à aujourd'hui. Le roi David a écrit il y a longtemps, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » On vient tous au monde avec une nature pécheresse. Alors, il y a des gens qui me disent des fois, « Non, non, mais les enfants, là, c'est pas des pécheurs, ça. » Ah non? Moi, ce que je leur dis, c'est mettez deux ou trois enfants en couche, là, assis par terre, avec juste un jouet ou un biberon entre eux. Vous allez voir s'ils n'ont pas de nature pécheresse. Par nature, on est tous pécheurs. Et donc, séparés de Dieu. La Bible dit, « Car tous ont péché, pas quelques-uns, les tueurs en série, les gens qui ne sont pas fins. » Non, non. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. « Oui, mais moi, je suis une bonne personne. Je ne fais pas partie de ça. » Bien, c'est parce que c'est écrit « tous ». On est tous dans le même bateau. On vient tous au monde avec une nature pécheresse qu'on a héritée de nos premiers parents, donc Adam et Ève. Et ça fait que spirituellement, ben, nous sommes aveugles. C'est-à-dire incapables de voir la vérité par nous-mêmes. C'est donc Dieu qui doit faire un miracle dans notre vie et nous éclairer. La Bible dit, « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et dans le même passage, il est question de l'esprit. On a l'esprit de l'homme en nous, parce qu'on est humain, et l'esprit humain ne peut pas voir les choses de Dieu. Ça prend l'esprit de Dieu pour les voir. Et pour recevoir l'esprit de Dieu, c'est un miracle que Dieu doit faire lui-même. Donc, à la base, on est tous pécheurs pris avec cette nature pécheresse. Et tout comme cet aveugle dans notre texte qui devait mendier pour vivre, notre aveuglement spirituel nous pousse aussi à mendier pour trouver la vérité. Tôt ou tard, vous savez, dans notre vie, on est confronté à une situation, à un événement, à un questionnement qui nous amène à la croisée des chemins où on est en quête de la vérité et qu'on est porté à mendier pour la trouver, d'une façon ou d'une autre. Et ça, ça explique le nombre ahurissant de religions qu'il y a dans le monde. Vous savez, certaines personnes vont dire, « Non, mais moi je crois pas ça. Je crois pas ça. Je crois pas ça qu'on recherche la vérité. » Ben oui. Le nombre de religions qu'il y a toujours eu depuis que le monde est monde, sur les 5 continents, dans toutes les cultures, ce nombre de religions incroyables montre qu'on est à la recherche de quelque chose. On est comme des mendiants qui cherchent en tâtonnant. Et certains vont se dire athées. Mais, vous savez, se dire athée, c'est aussi de l'aveuglement spirituel, mais volontaire. Et selon la Bible, être athée, c'est quelque chose d'insensé. À 2 reprises dans les psaumes, il est écrit, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » C'est de l'aveuglement spirituel parce que tout ce qui nous entoure, là, la création, l'événement dans lequel on vit et tout ça, de croire que Dieu n'est pas derrière ça pour avoir fait tout ça, c'est insensé. Ben, moi, je crois à la science. Oui, mais la science dit toujours que quelque chose résulte de quelque chose, sauf la création. Il me semble que ça ne tient pas la route, là. Oui, mais il y avait le Big Bang. Donc, l'univers était dans un dé à coude qui a explosé il y a 5 milliards d'années, et l'univers est là. OK, mais le dé à coude, il vient de où, lui? Veux pas, on doit en arriver là, à l'existence de Dieu et à son action, quelque part. Là. C'est de l'aveuglement spirituel de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est même insensé. Et vous savez, on est tous poussés par quelque chose d'intérieur et de plus grand que nous à chercher la vérité et à trouver la lumière. Et ce qui nous pousse à ça, c'est Dieu lui-même, l'esprit religieux qu'il y a dans l'homme, la quête de réponses existentielles et tout ça. C'est Dieu qui nous pousse à ça. Parce que dans sa parole, il est écrit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement à la fin. Ce qui nous pousse à la religiosité, ce qui nous pousse à trouver des réponses existentielles, ce qui nous amène des questionnements sur la vie après la mort, sur le bien, le mal et bien d'autres choses encore, tout ça, c'est parce que Dieu a mis une petite semence dans notre cœur qui nous pousse à le chercher. Donc, l'athéisme, ça n'existe pas. C'est de l'aveuglement spirituel. Et toutes les religions aussi le sont, tant qu'elles n'ont pas vu la lumière de la vérité, tant que les gens n'ont pas vu ça. Alors, par nature, nous sommes tous spirituellement aveugles et donc incapables de saisir par nous-mêmes l'œuvre que Dieu fait. Mais Dieu, qui nous aime, les musiciens en ont parlé tantôt, on a un grand Dieu merveilleux, un Dieu qui est bon, qui est amour, un Dieu qui est merveilleux, parfait. On pourrait en parler, je pourrais juste énumérer des qualités toute la matinée. Là. On a un Dieu extraordinaire. Puis ce Dieu-là nous aime tellement qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité parce qu'il veut nous attirer à lui afin de nous rendre la vue et de nous sauver. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? Cet aveugle de naissance, dans notre texte, qui mendiait au bord du chemin, est l'illustration de la condition spirituelle de tous les êtres humains. On est tous aveugles spirituellement et on mendie pour trouver la vérité. Parce que c'est plus fort que nous. Il y a quelque chose en nous qui cherche. Certains abandonnent en cours de route, mais la pensée de l'éternité, elle est là, bien vivante en nous, et elle se manifeste. Et même si on n'y croit pas, c'est là pareil. Alors, c'est de l'aveuglement spirituel volontaire. Si quelqu'un est dans ce cas, ce matin ici ou sur Internet, cessez de vous aveugler volontairement. Cherchez plutôt la lumière. Cherchez la lumière. Je continue. Parce que le seul qui puisse changer ça ce matin, c'est Jésus. Autant pour notre homme dans notre texte qui était aveuglonné et que pour nous. Le seul qui puisse changer ça et nous rendre la vue, c'est Jésus. Lisons les versets 5 à 7. Jean 9, 5 à 7. C'est Jésus qui parle. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Hey, wow, quelle affirmation extraordinaire. « Je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ça, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Bon, là, il y a toutes sortes de théories sur la boue, pourquoi Jésus a craché à terre, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je n'irai pas là. Moi, ce que je crois, puis vous pouvez croire ce que vous voulez là-dessus, là, c'est correct, puis il y a toutes sortes de théories. Mais moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il n'y avait rien de magique dans cette boue-là. Là. Absolument rien. En réalité, ici, c'est la foi en la parole de Jésus et l'obéissance en cette parole qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Parce que s'il n'était pas allé se laver au réservoir comme Jésus lui avait dit, là, il n'aurait pas recouvré la vue. Il serait resté la face tout seul avec la boîte. C'est parce qu'il a obéi, parce qu'il est allé se laver, qu'il a retrouvé la vue. Ça me fait penser à Naaman le Syrien dans l'Ancien Testament. Il voulait être guéri de sa lèpre. Alors là, il descend en Israël, et puis il s'en va voir le prophète. Et puis là, le prophète ne va même pas vers lui. Il envoie son serviteur lui dire, « Va et lave-toi dans le Jourdain. » Et là, Naaman est tout insulté, tout fâché de ça. Premièrement, parce que le prophète n'est pas venu le voir lui-même. Mais aussi, parce que de quoi l'homme laver dans le Jourdain? Il y en a des fleuves là, en Assyrie. Je pourrais me laver là-bas, là. Et là, il était fâché de ça. Mais ses serviteurs lui ont dit, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Alors Naaman obéit. Il est allé se laver 7 fois dans le Jourdain. Finalement, il l'a guéri. C'est pas le Jourdain qui a une puissance magique. Ce n'est pas la fontaine de Jouvence, le Jourdain. Là. C'est la foi et l'obéissance à la parole de Dieu qui fait la différence. Et notre foi est souvent mise à l'épreuve parce que Dieu nous demande de faire quelque chose. Et c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Mais notre foi est mise à l'épreuve. Et ici, autant pour Naaman que pour notre homme qui était né aveugle, il avait quelque chose à faire. Croire en Jésus, mais de croire, sa foi devait le pousser à obéir. Alors va, lave-toi. Alors il est allé, il a été guéri. Donc, Jésus a fait ce miracle-là d'une manière symbolique pour attester une grande vérité à son sujet. Comme il l'avait fait en Jean 6, par exemple, où peu de temps après le miracle de la multiplication des pains, il avait déclaré lui-même être le pain de vie. Et en Jean 11, juste avant de ressusciter Lazare, Jésus déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Et ici, au verset 5, comme à plusieurs autres reprises dans cet évangile, Jésus affirme être la lumière du monde. Et pour prouver qu'il l'est, il guérit cet aveugle et lui rend la vue. Il lui a fait voir la lumière. Et ce miracle-là a fait passer cet aveugle des ténèbres à la lumière physiquement, parce qu'il a recouvré la vue, mais tout ça pointait vers une vérité spirituelle encore plus grande. En Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Combien de gens cherchent la lumière dans le monde, mais ne la trouvent pas parce qu'ils ne cherchent pas au bon endroit. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est à lui qu'il faut regarder pour la trouver la lumière. Je me souviendrai toujours de, il y a plusieurs années de ça, j'étais allé visiter un homme. Un homme m'avait appelé et puis il m'avait dit, j'étais à mon bureau, puis il m'avait dit, écoute, on ne se connaît pas, mais il me reste 3 semaines à vivre, puis j'aimerais ça que tu fasses mon service funéraire. J'ai dit, OK, mais si on peut se rencontrer? Il dit, oui. Alors là, je vais le rencontrer. Et effectivement, il était très malade. Puis il me dit, tu vas faire mon service. Puis ça, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, sais-tu qu'est-ce que je vais dire? Non, il dit, raconte. Alors là, je lui ai annoncé l'Évangile. Et cet homme m'a dit, je veux que tu me promettes une chose. C'est que ce que tu viens de me dire là, là, tu vas le dire à tout le monde à mon service. J'ai dit, OK, moi, je veux bien, mais comment eux autres, ils vont recevoir ça? Là, il dit, ça, c'est mon affaire, je m'en occupe. Fais-moi la promesse que tu vas leur parler de Jésus comme tu viens de le faire. J'ai dit, OK. 2 semaines et demie après, environ, j'entends dire que l'homme était... à la maison de l'Envol, c'était à Rouyn-Noranda, c'était une maison des soins palliatifs. Alors, j'apprends qu'il est là, je vais le visiter, et là, j'entre, et je demande, elle est où sa chambre? Alors, je me dirige vers sa chambre, et là, il y avait des gens autour de lui, et lui était décédé. Il y avait 5-6 personnes, c'était ses frères et sœurs. Là, quand j'arrive dans la chambre, les gens me disent... Vous êtes qui? Là, j'ai dit, je me nomme. J'ai dit, Marcel m'a dit, oh, oui, oui, Marcel nous a parlé de toi. Puis il nous a dit, il nous a fait promettre qu'on allait écouter ce que tu allais nous dire. J'étais un peu rassuré. Là, ils ont dit, on a hâte de l'entendre parce qu'on ne sait pas ce que tu as dit. Mais depuis que tu as parlé, il n'était plus le même. Je dis, wow. OK. Et puis là, l'infirmière, une des infirmières qui était là, a dit, est-ce que vous aimeriez faire la cérémonie des chandelles? Cérémonie des chandelles? Moi, j'ai fait ça dans des mariages, mais à l'occasion d'un funérailles, ça veut dire quoi, ça? C'était une de ses sœurs qui m'avait dit ça. Mais là, il y a l'infirmière qui était là, a dit, est-ce que vous êtes entrée, là? Elle dit, avez-vous remarqué qu'il y avait... Un chandelier allumé? Je dis, oui. Bien, elle dit, on fait ça, c'est symbolique, parce que quand on a un de nos clients qui décède, on allume le chandelier pour indiquer à l'âme de suivre la lumière. Wow! Il dit, merci Seigneur, tu viens de me dire quoi faire. Hein? Alors là, j'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, si vous permettez, je vais vous lire un texte. Et j'ai lu le texte de Jean 8, où Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et là, pendant 10-15 minutes, j'ai annoncé l'Évangile. Le Seigneur est bon, vous savez. Suite à ça, on est allé de l'autre côté, dans une espèce de salle commune. Et là, une de ses sœurs m'a dit... accepteriez-vous de faire une prière? Je dis, oui, certainement. Elle dit, on pourrait faire le Notre Père. Ben, je dis, effectivement, le Notre Père, c'est une belle prière. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Mais si vous permettez, j'aimerais peut-être faire une prière autrement. Ah, tu fais ce que tu veux. OK. Alors, je saisis la balle au bon, je me ferme les yeux, puis je prie. Et puis là, je parle de Jésus, je parle qu'il est la lumière du monde. Bon, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 7 chambres dans la maison là-bas de l'envol. Donc, des gens dans toutes les chambres et le personnel. Tout le monde était là alentour. Quand j'ai ouvert les yeux, et tout le monde me regardait comme la mâchoire pendante. Là. Je dis, waouh! Là, il y a une madame qui se met à pleurer. Elle dit, c'est donc bien beau. Elle dit, votre prière, ça se trouve où, ça? Je peux-tu l'avoir? Vous savez, témoigner, on ne sait pas toujours par où commencer. Mais je pense qu'il faut commencer par ce qui est dans notre cœur. Puis saisir les occasions. Puis de ne pas avoir peur de crier au Seigneur. Là. Moi, là, quand je suis arrivé là, puis que c'était un petit peu hostile, là, je dis, t'es qui toi? Tu fais quoi ici? Je crie au Seigneur. Là. Maintenant, tu veux-tu faire la cérémonie des chandelles? Je suis pris. Je crie au Seigneur. Le Seigneur répond. Puis, Seigneur, sais nous délivrer de ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est de Jésus. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est lui, c'est de lui qu'il faut parler et c'est vers lui qu'il faut conduire les gens, dans la lumière et en toute vérité. Pour revenir à notre homme ici, il a été guéri physiquement par le miracle que Jésus a fait, mais tout ça pointait vers une vérité spirituelle encore plus grande qui a conduit notre homme à la lumière spirituelle. Parce qu'il a cru en Jésus. À la fin du chapitre, au verset 35, il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Wow! Cet homme avait été guéri physiquement. Jésus avait fait quelque chose pour lui de particulier, qui avait ouvert ses yeux. Ensuite, il a vu Jésus. Et Jésus a touché son cœur. Et il l'a adoré. Une belle illustration du salut dans cette histoire-là. Et vous savez, Jésus a fait quelque chose pour chacun de nous aussi. Jésus a fait quelque chose afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean 3, 16. Vous savez, ce matin, j'aimerais vous dire, si ce n'est pas déjà fait, laissez Jésus vous ouvrir les yeux et voyez ce qu'il a fait pour vous. Pas par la religiosité, pas dans une demande de faire ceci ou cela. Non, non. Laissez Jésus vous ouvrir les yeux et voyez ce qu'il a fait pour vous à la croix. Et ensuite, croyez en lui. Après ça, vous allez voir la lumière de l'éternité. Vous allez voir la vie à la lumière de l'éternité. Beaucoup de gens croient que Jésus est venu fonder une religion. Ben non, Jésus n'est pas venu fonder une religion. Sur cette croix, Jésus a été humilié. Les gens disaient, crucifiez-le, crucifiez-le. D'autres l'injuriaient. Descends de là, c'était le Fils de Dieu. Et toutes les insultes ne sont pas mentionnées, mais il y a dû en avoir. L'humiliation totale. Lui qui n'avait fait que du bien était là, pratiquement nu sur cette croix, à se faire injurier par les gens. Il a aussi été torturé parce que la crucifixion, c'était quelque chose de horrible. Il a été traité comme un malfaiteur. Mais pourquoi Jésus a fait ça? J'ai déjà entendu une dame me dire, bon, c'est un accident de parcours. C'était pas prévu, ça. Ah oui, c'était prévu. Jésus l'avait même annoncé d'avance. Et l'Ancien Testament révèle beaucoup de choses sur ça. c'était prévu certain. Jésus, c'était Dieu. Là. S'il n'avait pas voulu là, se faire arrêter, il n'y a personne qui l'aurait mis sur cette croix. Là. Quand les gens sont arrivés à Gethsémané pour l'arrêter, là, on dit que la cohorte était là, on parle d'environ 600 soldats. « Il est où, Jésus? » « C'est moi. » 600 hommes ont tombé sur le derrière. « C'est moi. » Quelle puissance dans sa parole. Imaginez-vous s'il n'avait pas voulu se faire arrêter, là. Personne qui l'aurait mis là, là, sur cette croix-là. Il était là parce que il devait y aller. Parce qu'il l'a fait pour nous. Jésus nous aime. Nous aime à la folie. Jésus a quitté son trône, où il était dans la gloire, où il était dans son royaume, où il était entouré d'êtres célestes qu'il servait. Mais il a quitté tout ça pour un temps, pour venir sur la terre, pour accomplir quelque chose qui nous était inconnu et impossible. Jésus a accompli notre salut. Et il l'a fait dans l'humiliation, dans la torture, en se faisant malmener. Moi, il me semble, là, je me serais fait dire, « Descends de là, puis on va croire en toi. » Oui, oui, j'aurais descendu, puis j'aurais rabattu les fesses. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait. Heureusement. Il est resté là parce qu'il devait rester là. Il devait aller jusqu'au bout. Il a souffert la croix, le supplice de la croix jusqu'au bout. Et c'est pour nous qu'il a fait ça. Parce qu'on est des bonnes personnes. Non? Je répète. Parce qu'on est des bonnes personnes. OK. Non, on est des pécheurs. Il est écrit dans l'Épître aux Romains que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On ne méritait pas ça. C'est une grâce que Dieu nous fait. Jésus est venu pour prendre notre place et subir à notre place la condamnation et le jugement que nos péchés méritent devant Dieu. Nos péchés sont graves. Oh non, ben, une petite menterie de rien du tout. Non, 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 c'est grave. Chaque péché est grave parce qu'il offense la parfaite sainteté de Dieu. On a de la misère avec ça, la conception de la parfaite sainteté de Dieu. Non, non, Dieu est bon, il ne s'occupe pas de ça. Non, non, non. Dieu n'est pas bonasse. Dieu est juste. Et le péché doit être puni. Mais comme on ne pouvait pas nous-mêmes faire ce qu'il faut pour effacer le péché, pour gagner notre ciel, bien Dieu, dans la personne de Jésus, est venu lui-même, il a fait ce qui nous était impossible de faire. Il est mort à notre place sur cette croix maudite, sur cette croix où il s'est fait pécher pour nous, sur cette croix où il a enduré, il a subi la colère, le jugement de Dieu que méritent nos péchés. Et ça, ça devait être fait parce que si Jésus n'avait pas fait ça, personne ne serait au paradis. Personne n'irait au ciel. Et de croire qu'on peut s'arranger ça par nous-mêmes, en faisant une religion, en étant de bonnes personnes, en faisant des bonnes actions, si on croit ça, bien, on croit un mensonge. Jésus a subi le supplice de la croix parce que c'était pour nous le seul moyen d'être sauvés. Il fallait que lui le fasse. Un texte merveilleux. La parole de Dieu dans Ésaïe 53 nous dit, en parlant de Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous savez, il y a bien des gens qui sont d'accord avec ça. Oui, oui, il a été humilié, il a été frappé de Dieu. Oui, mais réalisons-nous que c'est pour nous qu'il a fait ça. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ça peut être une partie de plaisir. C'est pour nous que Jésus a subi ça. Parce que sa mort et sa résurrection est le seul moyen par lequel on peut être sauvé, il n'y en a pas d'autre. Donc, inutile d'essayer de l'obtenir d'une autre manière, le salut, c'est impossible. Si vous croyez ça, vous croyez un immonde mensonge. Si on refuse de le croire, ben, c'est de l'aveuglement spirituel qui conduit à la perdition. Celui qui essaie de se sauver soi-même est comme un aveugle. Un aveugle qui essaierait de traverser une autoroute à 8 voies en courant en espérant ne pas se faire frapper. Ça n'arrivera pas. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire les religions, la bonne vie ou tout ça. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut est un don de Dieu. On n'est pas sauvé par ce que l'on fait, mais par ce que Jésus a fait. Donc, c'est inutile de se glorifier de quoi que ce soit, parce que la seule œuvre qui est digne du salut devant Dieu, c'est celle de Jésus. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a subi à la croix. Parce que c'est là qu'il a porté nos péchés devant Dieu et qu'il en a subi le jugement et la condamnation à notre place. Pour bénéficier et recevoir le pardon de Dieu, il faut croire. Mais croire, oh, moi je crois ça, oui, mais la vraie foi implique la repentance. La repentance, ce n'est pas populaire. Parce que juste de croire, comme ça, là, en disant avec une bonne volonté, ça ne sauvera personne. Ça prend la repentance. Dans les Actes, je n'ai pas l'écran, mais il y a un texte qui dit que Dieu dit à tous les hommes, partout qu'ils ont à se repentir. Se repentir, ça veut dire de regretter amèrement ce qu'on a fait. Et de s'en détourner. Parce que si je me dis chrétien, mais que je ne marche pas à l'image de Jésus, étant poussé par le Saint-Esprit qui est en moi à le faire, ben, je ne suis pas un vrai chrétien. Une foi qui n'a pas changé notre vie n'a pas sauvé notre âme. Une foi qui n'a pas changé notre vie n'a pas sauvé notre âme. La repentance, c'est de regretter sincèrement nos péchés et de vouloir s'en détourner. L'avez-vous fait? Jésus nous appelle à le faire. Jésus t'invite ce matin à le laisser t'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux de ton cœur, de ton âme, et crois en lui pour qui il est vraiment, avec foi et repentance. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir dire toi aussi, à ceux qui vont te demander qu'est-ce qui se passe, dans quoi tu es rentré, quelle est ta foi, quelle est ta croyance, que tu vas pouvoir dire, moi là, j'étais aveugle et maintenant je crois. Laisse Jésus te rencontrer ce matin et reçois-le comme sauveur. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 10 à 12, il est écrit, « Elle, c'est-à-dire la lumière, donc Jésus, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Serez-vous ce matin de ceux qui l'auront rejeté ou de ceux qui l'auront reçue? Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous incliner. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, puis qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est noir. Spirituellement, on est dans cet état-là. Si Jésus n'est pas notre sauveur. Maintenant, laisse Jésus venir à toi, te rencontrer à la croisée des chemins dans ta vie. Laisse Jésus te montrer ce qu'il a fait pour toi à la croix. Crois-le de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et reçois-le comme sauveur. Dis-lui dans tes propres mots, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Parce qu'il y a juste toi qui peux faire la différence. Il y a juste toi qui peux m'accorder le salut. Et reçois-le comme sauveur. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que si quelqu'un dans cette salle ce matin ou par Internet fait cette prière d'un cœur sincère, bien, je veux te remercier parce que tu sais ce que tu l'attires à toi. Et sauve-le, Seigneur. Et je te prie que tu en attires des gens à toi, que tu enlèves à certains les barrières qu'ils ont et que tu les amènes à s'abandonner à toi, à t'obéir afin que leurs yeux puissent s'ouvrir et qu'ils voient la lumière de la vie éternelle. Amen. Dernier point rapidement. Quand on témoigne, ça peut provoquer toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions. Certains sont curieux, comme au verset 26, ils lui disent, « Que t'as-t-il fait? Comment t'as-t-il ouvert les yeux? » Voyez-vous, il a juste dit, « J'étais aveugle et maintenant je vois. » Hein, mais c'est quoi qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ça. Puis il y en a d'autres qui ont été contrariés ou fâchés. Verset 28, ils l'injurièrent et ils le chassèrent. Vous savez, des fois, c'est déplaisant, mais on n'est pas responsable de la réaction des gens. Chacun est responsable devant Dieu de sa propre réponse à l'Évangile. Et chacun devra l'assumer pour l'éternité. Jésus, t'a-t-il ouvert les yeux ce matin? Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, c'est sa job de faire ça. Ce que Dieu nous demande, c'est de témoigner du salut en Jésus-Christ et de dire aux gens ce que Jésus a fait pour nous, pour moi. Vous savez, il y a plusieurs façons de dire « J'étais aveugle et maintenant je vois ». On peut dire « Moi là, j'étais perdu à cause de mes péchés puis maintenant je suis sauvé ». Moi, j'avais peur de mourir, puis maintenant, je suis en paix. La vie n'avait pas de sens pour moi, mais maintenant, elle en a un. J'avais mal de vivre, mais maintenant, j'ai goût à la vie. Je me questionnais sur la vie après la mort, maintenant, j'ai des réponses, etc., etc. Le restant, ça va se faire tout seul. J'étais aveugle, et maintenant, je vois. La façon la plus simple de témoigner, c'est de dire ce que Jésus a fait pour nous. Et de toute façon, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, essayez pas de faire sa job, vous n'y arriverez pas. Témoignez. J'étais aveugle et maintenant je vois. Prenez les témoins de Jéhovah, par exemple. Essayez pas d'argumenter avec eux, ça ne sert à rien. Parce que ces gens-là sont fermés d'esprit. Et de toute façon, ils n'écoutent pas. Ils attendent juste le moment de parler pour pouvoir répéter comme des perroquets ce qu'ils ont appris par cœur. Parce qu'ils n'ont aucun vécu avec le Seigneur. Ils ne peuvent pas dire « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Ils n'ont aucun vécu avec le Seigneur. Donc, ça ne sert à rien d'argumenter avec eux. Moi, ce que je fais maintenant avec eux, c'est que je les amène au pied de la croix. Et c'est Nathalie qui m'a enseigné ça. C'est Nathalie qui m'a enseigné comment parler avec un témoin de Jéhovah quand ils viennent chez nous. Parce qu'une fois, ils sont venus à la maison, puis Nathalie a dit, « Écoute, arrête tes arguments. » Elle a dit, « Moi, je n'ai pas le goût de parler de ça avec toi. » Elle a dit, « Moi, là, j'ai juste le goût de te dire une chose. C'est ce que Jésus a fait pour moi à la croix. » Puis là, elle leur a raconté un bout de leur témoignage. Elle n'a pas lu jusqu'à la fin parce qu'ils sont partis. Mais Nathalie, à sa façon, a dit, « Moi, là, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ce que les gens font, ça leur appartient. On n'est pas responsable de ça. » Les gens peuvent s'objecter, vous savez, si on parle de doctrine, si on est moralisateur, si on essaie de démolir leur propre croyance. Mais personne ne peut s'objecter à notre témoignage personnel de conversion. Personne ne peut s'objecter à ça. C'est nous qui l'avons vécu. Ce qu'on a vécu personnellement avec le Seigneur, les gens ne peuvent rien dire là-dessus. Ça peut juste les faire réfléchir. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'argumentation et la confrontation, c'est bien correct. Il y a des gens qui le sont, puis c'est correct qu'ils le fassent, là. Mais de façon générale, si vous ne l'êtes pas, dites simplement ce que Jésus a fait pour vous. J'étais aveugle, et maintenant je crois. Et dites-le à votre façon. Racontez aux gens comment Jésus vous a ouvert les yeux et pourquoi vous avez réalisé que vous aviez besoin de lui. Le Saint-Esprit va faire le reste. Le Seigneur n'a pas besoin de défenseurs, mais de témoins. Vous avez le goût de dire ce que Christ a fait pour vous? Essayez la façon simple, parce que le cœur parle plus fort que les plus grands arguments. Il y a différentes façons de témoigner. Certains le font avec brutalité. Je me souviens quand j'étais à l'usine, j'avais entendu parler d'un chrétien que je n'ai pas connu, il était là avant que moi j'arrive, là, mais qui entrait dans la salle de repos en donnant un coup de pied dans la porte, puis il criait « Sauvé par le Seigneur! » C'est plutôt brutal comme technique d'évangélisation. J'en ai connu d'autres qui étaient directs et froids et qui envoyaient tout le monde en enfer sans préambule. Bon, toutes les méthodes d'évangélisation peuvent porter du fruit, mais disons qu'il y en a certaines qui risquent de marcher mieux que d'autres. Hein? Et je crois que de raconter ce qu'on a vécu personnellement avec le Seigneur, ça a beaucoup d'impact. L'Évangile, et je termine avec ça, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette âme l'a proclamé à sa manière en disant « J'étais aveugle et maintenant je crois ». Faites la même chose. Racontez comment Jésus a changé votre vie. Puis laissez les gens repartir avec ça. En priant pour eux, que le Saint-Esprit fasse un travail de conversion en eux. Dites-leur en toute simplicité ce que Jésus a fait pour vous, parce que le cœur parle plus fort que les plus grands arguments. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour l'exemple de cet homme qu'on vient de voir dans l'Évangile de Jean. Cet homme qui n'était pas un grand orateur, cet homme qui était sans argument, mais qui a su témoigner d'une façon simple mais percutante comment tu avais changé sa vie. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et je te prie, Seigneur Jésus, que si quelqu'un ce matin a entendu l'Évangile, que tu la bénisses dans son cœur, que tu la fasses, que tu la déposes dans une terre fertile et que tu la fasses croître à salut jusque dans l'éternité. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons déjà, eh bien, aide-nous à être les témoins que tu veux que l'on soit pour toi, parce que tu ne nous appelles pas à être tes défenseurs, mais tes témoins dans ce monde qui en a grandement besoin. À toi la gloire. Amen.